Toi qui connais les souffrances que nous endurons ici, ne nous oublie pas dans tes prières. Inscription à l'entrée de l'aire d'atterrissage d'Arakin, archive historique de Dar es Balat. Taratza contemplait les pétales qui voltaient comme des flocons de neige dans le ciel de Rakis. L'éclat opalescent du matin était une chose à laquelle, malgré les nombreuses réunions d'information préparatoires, elle ne s'était pas attendue. Rakis lui réservait quelques surprises. Les effluves des fausses fleurs d'oranger étaient si prenants ici, à l'entrée des jardins suspendus de Dar es Balat, qu'ils faisaient oublier toutes les autres odeurs. Ne jamais croire que l'on a exploré entièrement les profondeurs d'un abîme ou d'un quelconque être humain, se dit-elle. Les conversations s'étaient tues, mais non les échos des propos qui s'étaient échangés à côté à peine quelques minutes auparavant. Tous étaient d'accord cependant pour dire que le moment était venu de passer aux actes. Bientôt, Shiana allait leur faire la danse du verre pour démontrer une fois de plus sa technique. Vaf et un nouveau représentant des prêtres assisterait à cet événement sacré, mais Taratza était certaine que ni l'un ni l'autre ne soupçonnait la véritable nature de ce qu'ils allaient voir. Vaf, comme toujours, serait à surveiller de près. Il affichait encore cette expression d'incrédulité irritée devant tout ce qu'il voyait ou entendait. Cela formait un étrange mélange avec la crainte religieuse sous-jacente qu'il ressentait du fait de sa présence sur la planète sacrée. Le catalyseur, de toute évidence, était la rage de savoir que c'était des imbéciles et des incapables qui gouvernaient ici. Odrad sortit de la salle de réunion et rejoignit Taratza.
« Les rapports que je reçois de gameux sont de plus en plus alarmants, » déclara la mère supérieure. « M'apportez-vous du nouveau ?»«
J'ai bien peur que non. Il semble que le chaos règne plus ou moins là-bas. »«
À votre avis, Dar, que devrions-nous faire ?»«
Les paroles du tyran à Chenoé ne cessent de me hanter. » Le Bene Gesserit est si proche de ce qu'il devrait être, et pourtant si éloigné encore.
Taratza montra le désert, au-delà du Khanat de la cité-musée.
« Il est encore là, Dar, je le sens. »
Elle se tourna pour faire face à Odrad.
« Et Shiana lui parle.
Il a dit tellement de mensonges.
Mais il n'a pas menti à propos de sa propre réincarnation. Souvenez-vous de ses paroles. Chaque fragment de ma descendance portera prisonnière, isolée et impuissante, une partie de mon esprit conscient, des perles de moi-même, errant aveugle parmi les sables, prisonnière d'un rêve sans fin.
Vous tablez beaucoup sur votre foi dans les pouvoirs de ce rêve.
Il faut que nous retrouvions les desseins du tyran, dans leur totalité.
Odrad soupira mais ne répondit pas.
Ne sous-estimez jamais les pouvoirs d'une idée, reprit Taratza. Les Atreides ont toujours été philosophes dans leur manière de gouverner. La philosophie est dangereuse en ce qu'elle encourage l'apparition d'idées nouvelles.
Odrad ne répondait toujours pas.
Le ver porte tout cela en lui, Dar,
poursuivit Taratza avec véhémence.
Toutes les forces qu'il a mises en branle sont encore présentes en lui.
C'est moi que vous essayez de convaincre ou vous-même, Dar?
C'est une façon pour moi de vous punir, Dar. De même que le tyran est encore en train de nous punir toutes.
De n'être pas ce que nous devrions être? Ah, voilà Shiana et les autres.
Le langage du ver, Dar, c'est cela qui est important.
Puisque vous le dites, mère supérieure.
Tandis qu'elle se portait à la rencontre des nouveaux arrivants, Taratza lui lança un regard courroucé. Odrad arborait un air sombre qui ne lui plaisait pas. La présence de Shiana, heureusement, lui redonnait toute sa détermination. Très alerte, cette petite Shiana. Très bon sujet. Elle leur avait exécuté sa danse la veille au soir, dans la salle de musée, sur un fond de tapisserie exotique en fibres d'épices représentant le désert et les vers géants. Elle semblait presque faire partie du décor, comme si elle sortait des dunes stylisées en même temps que les monstres représentés avec un réalisme saisissant. Taratza revoyait sa chevelure châtain volant autour d'elle au gré des mouvements rythmiques, ondoyant en un arc flou où la lumière oblique faisait ressortir les reflets fauves de ses mèches flottantes. Ses yeux étaient clos, mais son visage n'était pas au repos. La tension se lisait dans la courbe passionnée de sa grande bouche, dans ses narines frémissantes, dans son menton projeté en avant. Ses mouvements avaient une grâce sophistiquée qui formait un contraste avec son extrême jeunesse. « Cette danse est son langage, » se dit Taratza.
Odrad a raison. En la voyant, nous pourrons la prendre. »
Vaf semblait replié sur lui-même ce matin. Il était difficile de décider si son regard était tourné vers l'extérieur ou l'intérieur. Le Tleilaxu était en compagnie de Touloushan, un prêtre rakien aux cheveux bruns et à l'air avenant, qui avait été choisi pour représenter le clergé à cet événement sacré. Taratsa, qui avait fait sa connaissance la veille lors de la démonstration de Shiana, trouvait extraordinaire qu'il n'emploie jamais le mot « mais » alors qu'il formait l'essentiel de tout ce qu'il avait à dire. Le parfait bureaucrate. Dûment ambitieux comme tous ceux de son espèce, mais ses ambitions allaient bientôt tourner court. Taratsa, qui le savait de source sûre, n'en éprouvait pas le moindre regret pour lui. Touloushan, avec sa figure angélique, n'était pas à la hauteur d'une position de confiance. Naturellement, il valait mieux par certains côtés que les airs qu'il se donnait. Et moins par d'autres. Vaf se mit à l'écart à l'entrée du jardin, laissant Odrad et Shiana seuls avec Touloushan. Le jeune prêtre n'était pas irremplaçable, naturellement. Cela expliquait dans une large mesure pour quelle raison il avait été choisi pour cette aventure. Et cela confirmait à Taratsa qu'elle avait atteint le niveau souhaité de violence virtuelle. Elle ne pensait pas, cependant, qu'une des factions sacerdotales irait jusqu'à faire du mal à Shiana. Nous ne devons pas la quitter des yeux. Elles avaient eu du pain sur la planche depuis la démonstration des pouvoirs sexuels des catins 8 jours auparavant. 8 jours d'activité fébrile pour des résultats plutôt préoccupants dans l'ensemble. Odrad s'était chargé de Shiana. Taratsa aurait préféré confier cette tâche de formation à Lucille, mais il fallait bien se contenter de ce que l'on avait sous la main, et Odrad était incontestablement ce qu'il y avait de mieux en ce moment sur Rakis pour mener à bien l'éducation de la jeune fille. Taratsa se tourna vers le désert. On attendait en ce moment les ornis qui venaient de Kine avec leur chargement d'observateurs importants. Ses personnalités n'étaient pas encore vraiment en retard, mais elles savaient faire durer le plaisir comme il se devait pour des gens de leur rang. Shiana semblait réagir favorablement dans le domaine de l'éducation sexuelle, bien que l'opinion de Taratsa sur les mâles dont le Bene Gesserit disposait sur place pour les exercices pratiques ne fut guère flatteuse. Le soir même de son arrivée sur Rakis, elle avait fait venir l'un d'eux. Par la suite, elle avait jugé que le dérangement ne valait pas le peu de joie et d'oubli que cela lui apportait. Et d'ailleurs, qu'avait-il à oublier? Oublier, c'était ouvrir la porte à une faiblesse. Ne jamais oublier. C'était exactement ce que pratiquaient les catins. Le commerce de l'oubli. Et elle n'avait pas la moindre conscience de l'étau dans lequel le tyran tenait prisonnière les destinées humaines, ni de la nécessité absolue de briser cet étau. Taratsa avait secrètement écouté ce que disaient Odrad et Shiana pendant la séance de la veille. Pourquoi ai-je écouté? La jeune fille et son professeur se trouvaient ici même dans le jardin suspendu, sur des bancs face à face au-dessous d'un distorixien portatif qui rendait leurs paroles inintelligibles pour quelqu'un qui ne disposait pas du transmetteur codé. Le distor, monté sur un suspenseur, flottait au-dessus d'elle comme un étrange parapluie, un disque noir émettant des interférences qui déformaient les mouvements précis des lèvres et le son de leur voix. Pour Taratsa, qui se tenait dans la longue salle de réunion, le minuscule transmetteur à l'oreille, la leçon s'était déroulée comme une véritable distorsion de ses propres souvenirs. Quand ces choses-là m'ont été enseignées, nous n'avions pas encore vu de quoi les catins de la dispersion étaient capables.
« Pourquoi parle-t-on autant de la complexité du sexe ?» avait demandé Shiana. « L'homme que vous m'avez envoyé hier soir ne répétait que cela. »
« Beaucoup pensent qu'ils la comprennent, Shiana, alors que personne, peut-être, ne l'a jamais vraiment comprise. C'est que ces choses-là participent de l'esprit beaucoup plus que de la chair. Pourquoi n'ai-je pas le droit de me servir de ce que nous ont montré les danseurs visages ?
Shiana, cette complexité dont tu parles recouvre des rouages infinis. De bonnes et de mauvaises actions ont été commises sous l'impulsion des forces sexuelles. On parle de puissance sexuelle, ou bien d'énergie sexuelle, ou encore de l'irrésistible appel du désir. Je ne nie pas que ce soit des faits observables. Mais nous sommes ici en présence des forces si dangereuses qu'elles ont le pouvoir de te détruire ainsi que toutes les valeurs auxquelles tu es attaché.
C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Quelle est l'erreur des catins?
Elles ignorent le fonctionnement de l'espèce, Shiana. Je suis sûr que tu es déjà capable de ressentir cela.
Le tyran en était certainement conscient, Qu'est-ce que son sentier d'or, sinon une vision des forces sexuelles à l'œuvre pour recréer indéfiniment l'humanité? Et les catins ne créent pas? Elles essaient surtout de s'assurer la maîtrise de leur univers au moyen de ces forces. Il semble qu'elles y réussissent.
Ah,
mais au prix de quelles conséquences?
Je ne comprends pas.
Tu sais ce que c'est que la voix, et de quelle manière elle permet d'assujettir les autres?
Oui, mais pas tout le monde.
Précisément. Une civilisation assujettie par la voix pendant une trop longue période de temps finirait par trouver le moyen de résister à cette force et de rendre inopérante toute manipulation ultérieure.
Vous voulez dire qu'il y a des gens qui savent résister aux catins?
Les signes sont là et ils ne peuvent pas nous tromper. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus sur Rakis.
Les catins vont venir ici?
J'en ai bien peur. Elles veulent conquérir le cœur de l'ancien empire. Elles voient en nous un adversaire facile.
Et vous n'avez pas peur qu'elles gagnent?
Elles ne peuvent pas gagner, Shiana, sois-en sûre, mais elles nous rendent service.
Comment ça?
Le ton de Shiana faisait écho à la stupéfaction éprouvée par Taratza en entendant Audrade prononcer ces mots. Que savait-elle au juste? L'instant d'après, la mère supérieure comprit, et elle se demanda si la leçon était aussi claire dans l'esprit de la jeune fille.
Le cœur est statique, Shiana. Voilà près de 4000 ans que nous sommes pratiquement au même point. Le mouvement et la vie sont là-bas, avec les peuples de la dispersion qui résistent aux catins. Quoi que nous fassions par ailleurs, nous devons renforcer cette résistance.
Un bruit d'orni qui approchait rappela brusquement Taratza la réalité présente. Les observateurs officiels arrivaient de Kin. Ils étaient encore loin, mais les bruits portaient à de grandes distances dans l'atmosphère limpide du désert. La méthode pédagogique d'Audrade était bonne. Taratza le reconnaissait volontiers, tout en scrutant le ciel à la recherche des premiers points brillants. Apparemment, il volait bas et venait de l'autre côté de l'immeuble. Ce n'était pas la bonne direction, mais peut-être avait-on voulu promener les officiels du côté des ruines de la muraille du tyran. Beaucoup de visiteurs étaient curieux de voir l'endroit où Audrade avait découvert le magot d'épices. Shiana, Audrade, Vaf et Tolushan rentrèrent dans la salle de réunion. Ils avaient également entendu les ornis. Shiana avait hâte de démontrer son pouvoir sur les vers. Taratza était incertaine. Elle avait cru déceler un bruit de fatigue dans les réacteurs des appareils. Était-il surchargé? Combien d'observateurs devaient se trouver à bord? Le premier orni amorça un passage au-dessus de la terrasse et Taratza aperçut le cockpit blindé. Elle sut qu'il y avait traîtrise avant même que le premier rayon ne surgisse de l'engin, fauchant ses jambes au-dessous des genoux. Elle s'affaissa lourdement contre un arbre en peau, les jambes entièrement sectionnées. Un nouveau rayon lui mordit obliquement la hanche. L'orni passa au-dessus d'elle dans le rugissement de ses réacteurs auxiliaires, puis vira sur l'aile vers la gauche. Taratza s'agrippa à l'arbre, détournant la douleur. Elle réussit à interrompre presque tous les écoulements de ses blessures, mais la souffrance était grande. Pas aussi forte que l'agonie de l'épice, se souvint-elle. Cela aidait, bien qu'elle se sût condamnée. Elle entendait maintenant, partout dans le musée et aux abords de l'immeuble, des cris et de multiples bruits de violence. « J'ai gagné », se dit-elle. Audrade émergea en courant sur la terrasse et se pencha sur elle. Elle ne parla pas, mais Audrade montra qu'elle comprenait en collant son front contre la tempe de la mère supérieure. Rituel millénaire du Bene Gesserit. Taratza commença à déverser sa vie dans la conscience d'Audrade. La mémoire seconde, les espoirs, les craintes et tout le reste. L'une d'entre elles avait peut-être une chance d'en réchapper. Shiana les observait de l'intérieur. Elle avait reçu l'ordre de ne pas bouger de l'endroit où elle se trouvait. Elle savait ce qui était en train de se passer sur la terrasse. C'était l'ultime mystère du Bene Gesserit et chaque postulante était au courant. Vaf et Tolushan, qui avaient déjà quitté la salle au moment de l'attaque, n'étaient pas revenus. Shiana frissonnait d'appréhension. Brusquement, Audrade se releva et rentra en courant. Il y avait une lueur farouche dans son regard, mais chacun de ses mouvements était rempli de détermination. Bondissant pour attraper les brilleurs qui se trouvaient sur son chemin, elle les réunit en grappe par leurs cordons, dont elle mit les extrémités entre les mains de Shiana. Celle-ci se sentit devenir légère sous l'effet des champs suspenseurs. Traînant d'autres globes derrière elle,
Odrade courut vers une extrémité de la salle où une grille murale indiquait l'endroit qu'elle cherchait. Avec l'aide de Shiana, elle retira la grille qui donnait accès à un puits d'aération. La lumière des brilleurs leur permit de voir les murs rugueux à l'intérieur.
« Rapproche les globes pour obtenir le maximum d'effets suspenseurs, » lui dit Odrade. « Éloigne-les de toi pour te laisser descendre. Tu passes la première. »
Shiana enroula l'extrémité des cordons autour d'une main moite de transpiration, puis se glissa dans le puits. Elle se laissa d'abord descendre, puis, soudain apeurée, tira sur les cordons pour ralentir sa chute. Au-dessus d'elle, la lumière indiquait qu'Odrade la suivait. Arrivée en bas, elles émergèrent dans une salle de machinerie où les ventilateurs formaient un fond sonore à la violence qui se déchaînait au dehors.
« Il nous faudra rejoindre d'abord un non-espace, puis le désert, » dit Odrade. « Ces puits d'aération communiquent. Nous trouverons le passage. »«
Elle est morte ?»
murmura Shiana.
« Oui.
Pauvre mère supérieure.
C'est moi la mère supérieure à présent, Shiana. Provisoirement du moins. »
Elle leva un doigt vers le ciel.
« Ce sont les catins qui ont attaqué. Il n'y a pas de temps à perdre. »